Alors la parole est à Eric Halt, pour revenir peut-être plus du coup sur les aspects juridiques de toutes ces questions.
Voilà, donc sur les questions de structuration, de restructuration, qui peuvent aboutir à des formes très complexes. Je suis allé voir du côté de l'industrie extractive, et par exemple Total compte 934 filiales intégrées dans le périmètre des comptes de consolidation pour BP. Entre la société mère et la dernière des filiales, il peut y avoir jusqu'à 12 niveaux. Et donc l'enjeu juridique est de responsabiliser ces sociétés dans un contexte où il y a quand même une dissociation du pouvoir et de la responsabilité, une dilution des responsabilités par différentes techniques qui peuvent concerner le droit social, mais aussi le droit fiscal. Alors, mon exposé sera en trois points. D'une part, je reviendrai sur les questions de co-emploi. Pour mémoire, parce qu'en réalité, à la suite de l'arrêt Molex, notamment, la jurisprudence sur le co-emploi est globalement abandonnée. Ensuite, je résumerai les questions, le recours aux formes classiques de responsabilité. Et enfin, je verrai ce que on peut compter, comment on peut compter sur de nouvelles méthodes permettant d'engager la responsabilité, en fait la responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales et de leurs sous-traitants, et je dirais quelques mots de la loi de 2017 sur le sujet. Alors, sur le co-emploi, c'est une tentative de responsabilisation avec les moyens du droit social. La situation de co-emploi ne résultait pas de l'appartenance au même groupe. Il fallait effectivement cette triple confusion d'intérêts, d'activités, de direction. Pas forcément un rapport de subordination individuelle entre la société mère et les salariés, mais cette triple confusion. Et alors, il y a une jurisprudence sur le détail de laquelle je ne reviens pas, ça n'a pas d'intérêt ici. En revanche, il y a un arrêt emblématique où on met en place, où on met en œuvre cette jurisprudence sur le co-emploi, qui est l'arrêt Metal Europe du 28 septembre 2011. Donc là, on a une situation dans laquelle la société mère avait les mêmes dirigeants que la filiale, tenait la trésorerie de la filiale, recrutait les cadres et gérait leur carrière, avait négocié un moratoire sur la fermeture du site de France, site français, et demander à la société filiale de rendre compte de sa gestion, décider l'attribution des primes. On a considéré que ce faisceau d'éléments permettait de caractériser la triple confusion d'intérêts, d'activité et de direction, et il y avait donc co-emploi. Donc ça permettait de faire revenir, remonter à la société mère un certain nombre de dettes de la société filiale. Uniquement sur la question de l'emploi. On reviendra tout à l'heure sur la question environnementale. Cette jurisprudence aurait pu s'appliquer à Molex. Il y a eu sur ce sujet un grand débat, parce que vous savez que ça a été résumé d'ailleurs à l'instant dans l'affaire Molex. La question s'est posée devant les prud'hommes. Prud'hommes disent qu'il y a co-emploi. Donc essentiellement sans causerait les sérieuses responsabilités qui peut remonter à la société mère. La cour d'appel confirme, et le débat, je veux dire, a été un débat intéressant à la cour de cassation, l'avocat général d'ailleurs étant lui aussi pour maintenir le co-emploi. Je rappelle comment l'affaire se présentait pour Molex d'un point de vue juridique. Les co-gérants successifs de la société française MAS provenaient tous du groupe Molex, co-dirigeants. Ils rendaient compte directement de leur gestion à la vice-présidente de la société Molex États-Unis. Bon, il y avait un gérant local, mais tous les autres rendaient compte. La vice-présidente États-Unis avait signé au nom de la société française un protocole d'accord sur les conditions du licenciement. La société Molex États-Unis avait imposé à la société française des décisions portant sur son activité courante, telles que la fabrication des pièces lors des négociations commerciales. La société Molex États-Unis avait décidé dès le début de l'année 2008 de procéder à la fermeture de la société française par la constitution de stocks et par la mise en fabrication aux États-Unis de produits clones, comparables à ceux fabriqués en France. Et enfin, la société Molex avait provisionné dans ses comptes, en octobre 2008, la charge de restructuration incluant la fermeture d'une entreprise en Europe. Tout ceci était dans l'arrêt de la Cour d'appel. Et donc, il est soumis à l'appréciation de la Cour de cassation sur la pertinence, l'opportunité d'appliquer la jurisprudence sur le co-emploi. Et la réponse de la Cour de cassation, effectivement, qui montre bien les deux points de vue, en une phrase très synthétique, comme la Cour de cassation sait en produire, dit « Le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi. » On est dans une situation, c'est vrai que c'est un revirement de jurisprudence, enfin, c'est une atténuation très forte de la jurisprudence qui s'était appliquée à Metal Europe et à un certain nombre d'autres sociétés. Je retiens que dans ce débat, la légalité commerciale a primé. La jurisprudence, je pense, avait une fragilité parce qu'elle était... Elle était prétorienne, donc elle était construite à partir de ce que disait la Cour de cassation, et il n'y avait pas d'assise légale. Donc la Cour de cassation a eu un peu peur des conséquences, parce qu'effectivement, le co-emploi pouvait avoir des conséquences très importantes si on prolongeait cette jurisprudence. J'ajoute que la Cour de cassation était très critiquée en doctrine. Beaucoup parlaient d'effraction juridique d'autres secteurs du droit, donc c'était quelque chose qui était d'illégitimité du droit social troubler des catégories qui existent, notamment en droit commercial. Bon, il y avait tout cela, mais l'arrêt ne dit rien d'autre que ce que je vous ai rappelé, ce que je vous ai cité à l'instant. Mais c'était des éléments qui étaient dans le débat et c'est des éléments qui se sont retrouvés dans le commentaire. Donc, ce revirement de jurisprudence ne neutralise pas totalement le co-emploi, mais en réalité le réduit à une portion congrue. Il y a désormais co-emploi uniquement lorsque il y a une fictivité totale. On ne se pose même plus la question de la triple confusion. Et effectivement, s'il y a un regroupement total entre une société mère et une société filiale, au point que l'une ne se distingue pas de l'autre, on est quasiment dans un concert frauduleux. Là, effectivement, on pourra toujours accrocher l'une avec le co-emploi. Donc le co-emploi, c'est une jurisprudence qui... globalement, aujourd'hui, elle n'est plus opérationnelle pour traiter ce type de situation. Alors, deuxièmement, peut-on venir responsabiliser les sociétés avec les moyens classiques de la du droit civil ou du droit commercial? Alors, il y a d'abord la faute de gestion, article 621-2 du Code de commerce, extension de la procédure collective. En cas de faute de gestion ayant entraîné une insuffisance d'actifs, le montant de l'insuffisance entre dans le patrimoine des dirigeants de droit ou de fait. Mais là aussi, la question est de caractériser la faute de gestion. Et on retrouve Metal Europe, extension à la société mère de la procédure de liquidation. La Cour d'appel avait dit oui, la situation permet d'étendre à la société mère la procédure de liquidation, mais la cassation par la chambre commerciale, car la Cour d'appel n'avait pas caractérisé en quoi, dans un groupe de sociétés, les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel et les avances de fonds par la société mère, qu'elle a constaté, révélaient des relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoine de la société mère avec celle de la filiale. La chambre commerciale de 2005. Donc réponse du législateur, mais c'est une réponse du législateur qui est très ponctuelle, parce qu'en réalité, vous savez que Metal Europe avait laissé des sites qui étaient très pollués, que la pollution était en fait revenue d'une façon ou d'une autre à la charge de l'État dans des conditions qui n'étaient pas satisfaisantes du tout. Donc le législateur a produit à cette époque un article 512-17 du Code de l'environnement. On peut dire, en cas de liquidation judiciaire comparable à celle de Metal Europe, le parquet peut agir devant la société mère ou grand-mère afin de la traire en responsabilité. Mais ça signifie aussi qu'on est caractérisé une faute. Et donc on se retrouve dans une situation qui n'est pas très éloignée de la situation d'origine, à ceci près que il y a quand même une assise légale qui permet à l'autorité d'agir. Je ne connais pas d'exemple d'ailleurs de mise en œuvre de cet article par le parquet. Donc ça, c'est sur la faute de gestion, toujours difficulté d'établir la faute de gestion. On avait aussi, je vous cite en dernier lieu sur cette difficulté, un exemple qui est celui de la société Sodimédical. La société Sodimédical avait bénéficié de plans sociaux, avait bénéficié de subventions, et la société française a été mise en liquidation. La société allemande, qui était la société mère, se portant très bien. Et la cour d'appel avait dit la mise en liquidation n'a d'autre but que d'obtenir un avantage économique. Donc refus de liquidation judiciaire, la cour d'appel considérait qu'après l'échec de plusieurs plans de sauvegarde et de l'emploi, il s'agissait simplement de permettre de licenciement dont la cause économique ne pouvait plus être contestée et de faire prendre en charge hors coût par la collectivité. Mais la cour de cassation a dit la liquidation est de droit quand il y a cessation des paiements indépendamment du mobile. Donc c'est à la fois difficulté d'établir la faute de gestion, mais à supposer même qu'il y ait une faute de gestion, ça n'interdisait pas de mettre en liquidation, alors même qu'on était dans des situations où manifestement il s'agissait là aussi d'échapper à une responsabilité qui aurait pu incomber à l'ensemble du groupe. Autre façon de mettre en œuvre la responsabilité civile, c'est d'agir tout simplement sur l'article 1240 du Code civil. Et d'ailleurs, un certain nombre de cours d'appel, après l'abandon de la jurisprudence du co-emploi, fait remonter la responsabilité à la société mère en se fondant sur la responsabilité civile. Le problème, c'est que la responsabilité civile se met en œuvre devant le tribunal de grande instance. Et donc la question se pose de savoir si elle peut être mise en œuvre d'une façon comparable devant le Conseil du Prud'homme et les juridictions et les cours d'appel. Ensuite, l'article 1240 suppose un fait générateur, un dommage, caractérise un dommage, un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Alors il y aura une audience thématique à la Cour de cassation au mois d'avril pour savoir si, dans le cadre d'un conseil de prud'homme, dans le cadre de la juridiction du travail, on peut agir en responsabilité civile. Avec cette petite vulnérabilité, c'est que le sujet avait été bien vu lors de la réforme du Code civil, puisque les fondements de la responsabilité civile, traditionnellement 1382, 1384 du Code civil, ont été modifiés. Le droit de la responsabilité civile a été un peu recodifié. Mais lorsque cette recodification des rapports avait précédé ce travail législatif, deux rapports notamment avaient proposé d'écrire explicitement dans le Code civil cette possibilité de faire remonter la responsabilité à la société mère. Rapport Catala 2005 proposait de dire « est responsable celui qui contrôle l'activité économique ou patrimoniale d'un professionnel en situation de dépendance, bien qu'agissant pour son propre nom, lorsque la victime établit que le fait dommageable est en relation avec l'exercice du contrôle, il en est ainsi notamment des sociétés mères pour les dommages causés par leurs filiales ou des concédants pour les dommages causés par leurs concessionnaires. » Ça, c'était une proposition de 2005. Et un autre rapport, donc rapport Catala 2005, et un autre rapport, le rapport Terré en 2012, proposait un petit peu ce qui rappelle la responsabilité du fait d'autrui. Il disait, une société ne répond du dommage causé par la société qu'elle contrôle, ou sur laquelle elle exerce une influence notable, que si par une participation à un organe de cette société, une instruction, une immixtion ou une abstention dans sa gestion, elle a contribué de manière significative à la réalisation du dommage. Donc ceci n'a pas été inscrit et ce qui existe actuellement permettrait éventuellement une jurisprudence, mais l'assise n'est pas une assise aussi forte que celle qui aurait été constituée par ces articles, l'un ou l'autre, écrits inscrit par le législateur dans le Code civil. Mais le législateur, manifestement, enfin le gouvernement, parce que la législation est fortement déterminée par le gouvernement, par l'exécutif aujourd'hui, n'en a pas voulu. Donc il reste la responsabilité pénale. Responsabilité pénale, alors effectivement, remontée de trésorerie sans contrepartie, ça caractérise l'abus de biens sociaux, et on est dans un concert frauduleux. Et un exemple intéressant de responsabilité pénale, qui est l'affaire Total. Vous savez que Total a vu sa responsabilité engagée dans la fameuse affaire de l'Erika, mais la responsabilité de Total n'était pas engagée du fait de l'action de la société qui avait affrété le navire qui présentait des avaries, mais la responsabilité pénale de la société Total a été engagée car Total s'était engagé volontairement à procéder à un certain nombre de contrôles sur les navires et sur les sociétés auxquelles elle affrétait des produits, du carburant, et elle avait manqué à cet engagement volontaire. Mais c'est un exemple très rare. Effectivement, c'était salué en doctrine. Là, effectivement, c'était quelque chose de très particulier, mais très rare, responsabilité du fait du non-respect d'un engagement volontaire. Donc ces difficultés, qu'il s'agisse du comploi ou de la responsabilité civile, entendue d'un point de vue strict ou sous son aspect commercial, ont conduit le législateur. Les associations, d'ailleurs, ont fortement agi dans ce sens. Sherpa, je pense, a significativement, l'association Sherpa, qui lutte contre les crimes économiques et pour la responsabilité sociale et environnementale, a significativement contribué à l'écriture de ce texte. Et donc tout ceci a contribué à ce que soit voté et promulgué le 27 mars 2017, la loi sur un devoir de vigilance des sociétés mères du fait de leurs filiales. Et c'est un saut paradigmatique. C'est, juridiquement, c'est quelque chose de très novateur. On l'avait un peu entrevu, mais de façon très très modeste, très très mineure, dans la loi Nouvelle Responsabilité Économique du 15 mai 2001, puisqu'il était déjà question d'imposer au groupe la publication d'informations non financières. C'était encore de façon très très mineure, et je dirais quasiment marginale, dans la loi du 10 juillet 2014, pour lutter contre la concurrence déloyale, puisqu'on impose, aux donneurs d'ordre un devoir de vigilance sur les sous-traitants, mais l'obligation, c'est simplement pour le sous-traitant de répondre au donneur d'ordre et pour le donneur d'ordre éventuellement d'en tirer des conséquences. Mais la loi ne dit rien d'autre. Donc, peanuts. En revanche, la loi du 27 mars est novatrice, d'abord parce qu'elle fait appel à l'institution de vigilance, qui est nouvelle en droit français, qui est plutôt issue du droit anglo-saxon, qui se trouve dans les principes directeurs de l'OCDE ou dans le pacte global des Nations Unies. Certes, il y a une référence à la responsabilité civile. Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du Code civil, ce manquement aux obligations définies, obligations de vigilance, engage la responsabilité. Et c'est une responsabilité du fait du manquement au devoir de vigilance. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? D'abord, on définit un périmètre. Donc c'est en gros les entreprises de plus de 5000 employés en France, plus de 5000 salariés en France, ou de plus de 10 000 salariés qui ont une activité en France, qui ont un lien de rattachement avec la France. C'est quand même un nombre peu important d'entreprises au départ. Ça ne concerne pas les entreprises qui ont un siège à l'étranger et qui ont elles-mêmes, à leur siège, élaboré un plan de vigilance. Enfin, on a quand même des obligations qui pèsent sur un nombre de très grandes entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies par l'article L2231-1 du Code du travail. En gros, l'article qui définit les groupes, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Donc c'est une avancée juridique qui fait apparaître les structures sous-jacentes de l'entreprise, qui prend en considération une sphère, une chaîne de valeur, pour définir un périmètre. On traite une sphère d'influence comprend le groupe, les intermédiaires, les fournisseurs. Donc c'est une logique qui est autant économique que juridique. On sort du droit commercial classique et des catégories commerciales classiques et de l'autonomie d'une personnalité morale par rapport à une autre personne morale. Ensuite, une fois qu'on a défini ce périmètre, on a des obligations, mise en place d'un plan de vigilance défini par les parties prenantes, avec toute cette particularité, cette subtilité consistant à définir et à donner du contenu à la notion de partie prenante. Alors, il y a des normes ISO qui définissent ces parties prenantes. Ce sont des parties représentatives et crédibles. Ça peut éventuellement être des associations, ça peut éventuellement être des associations de consommateurs, des associations de défense de l'environnement, des associations syndicales. Les syndicats peuvent éventuellement être parties prenantes, mais c'est quelque chose qui reste, c'est un contenu qui reste, un contenant qui reste à remplir. Un contenu n'est pas encore défini dans la loi autrement que de la façon que je viens de rappeler, partie prenante. Ensuite, mesure de vigilance raisonnable, là aussi terminologie anglo-saxonne. C'est une loi qui fait 4 articles, dont 2 sont opérationnels. Donc c'est assez rapide, assez facile à retenir, mais les concepts sont très nouveaux. Et la notion de vigilance raisonnable est aussi une notion très nouvelle. Le plan de vigilance est effectivement plus classique. Il rappelle un peu le plan de vigilance qui existe dans la loi Sapin 2 et qui vise à lutter contre la corruption d'agents publics à l'étranger, mais le plan de vigilance tel qu'il est prévu dans la loi Sapin 2, qui résulte de directives ou de lignes directrices élaborées par l'Agence française anticorruption, est un plan de vigilance dont la sanction est administrative ou éventuellement judiciaire. Là, on verra qu'il y a un problème pour ce qui est de la sanction, mais enfin, ce plan de vigilance est classique, il comprend une cartographie des risques, destiné à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation. Il comprend des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales et des sous-traitants. Il prévoit des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention, un mécanisme d'alerte, un dispositif de suivi. À l'origine, la loi prévoyait une amende civile. Alors déjà, amende civile, c'est quelque chose qui est relativement atypique. À l'origine, il était question d'une amende civile. Le Conseil constitutionnel a considéré que les termes, que les obligations qui résultaient de cette loi étaient définies d'une façon insuffisamment précise et qu'on pouvait fonder, pour cette raison, qu'on pouvait fonder sur ces obligations insuffisamment précises une amende civile qui est quasi pénale. En réalité, c'est le principe de l'égalité des délits et des peines. Mais je ne suis pas sûr que ça... diminue l'impact de ce texte. Alors certes, il n'y a pas d'amende civile et il n'y a pas d'institution en charge de vérifier que ces plans de vigilance existent, le cas échéant, si ces plans de vigilance n'ont pas joué leur rôle, d'agir en responsabilité. Néanmoins, on peut penser que les associations... voir les personnes directement impactées par le manquement au devoir de vigilance qui pourrait se constituer en association, se regrouper, on peut imaginer que c'est, on peut imaginer des situations dans lesquelles le juge est saisi d'une action en responsabilité pour manquement à l'obligation de vigilance. Ça, c'est tout à fait possible. Cette obligation de vigilance crée des obligations et donc des créances de la part de ceux qui seraient éventuellement victimes. Donc derrière tout cela, évidemment, il y avait l'affaire Rana Plaza, donc cette catastrophe au Bangladesh, et un certain nombre d'autres situations dans lesquelles les sociétés françaises avaient eu recours à des sous-traitants en toute hypocrisie, en disant effectivement autonomie de la personne morale sous-traitante, je veux rien voir, je veux rien savoir. Éventuellement, j'ai fait inscrire dans le contrat une obligation, mais c'était pas à moi de respecter cette obligation, et si cette obligation n'est pas respectée, ben, c'est la responsabilité du sous-traitant. Effectivement, ça c'est en théorie plus possible. Reste effectivement à faire vivre cette loi. Effectivement, reste à imaginer des situations dans lesquelles il faudra quand même démontrer le dommage et le lien, parce qu'on est en responsabilité civile, donc il y aura un dommage, il y aura un fait générateur du dommage, et il faudra quand même montrer que Il y a un lien entre l'un et l'autre qui tient au manquement de l'entreprise société mère au devoir de vigilance. Mais ça ouvre des perspectives très intéressantes. En tout cas, juridiquement, c'est un progrès important. Possibilité éventuellement d'une action groupe si on est en droit de la consommation, notamment. Donc, en conclusion, on a une proposition dont j'ai rappelé qu'elle avait été fortement inspirée par la société civile. On a une consistance pour le droit de la responsabilité sociale et environnementale, qui est souvent considéré comme un droit mou. Là, c'est un droit mou qui passe dans la sphère du droit positif, du droit dur. On a un juge national qui est compétent, alors même que le dommage peut avoir lieu dans un autre État, mais il est compétent parce que l'entreprise qui est tenue au devoir de vigilance est sur le territoire national. On a même une exemplarité française, puisque nous sommes les premiers à traduire juridiquement en droit positif ce qui jusqu'à présent existait dans les principes directeurs de l'OCDE ou dans le Global Compact de l'ONU, mais en termes de recommandations morales, recommandations éthiques. Donc là, l'éthique devient juridique, inscrite dans le droit. Et puis d'ailleurs, pour faire vivre cela, il y a un nouveau mandat qui a été donné à la Commission consultative nationale des droits de l'homme pour la mise en œuvre des principes directeurs des Nations Unies. Et je ne doute pas que la Commission nationale consultative des droits de l'homme aura à cœur de jouer un rôle moteur pour vérifier que le devoir de vigilance est correctement mis en œuvre dans les entreprises qui sont concernées, même si la Commission nationale consultative des droits de l'homme n'a pas de pouvoir de sanction. Voilà où nous en sommes, mais je crois qu'il y a dans le droit comptable des perspectives encore plus intéressantes. Et je fais là la transition avec l'exposé de Marie-Astrid Latonne, qui sera encore plus intéressant du point de vue des avancées conceptuelles envisageables.
Merci beaucoup, Eric. Quelques questions factuelles ? Oui, Jacques ?
Alors, peut-être que j'anticipe sur ce qui va se passer. Alors, moi, je suis expert comptable et professeur de comptabilité. Et je voudrais signaler un point, parce que dans l'exposé qui a été fait, au demeurant extrêmement intéressant et extrêmement pertinent, ce qui me frappe, c'est que précisément, quand on parle de droit commercial, on exclut en fait le droit comptable. C'est assez extraordinaire. Alors effectivement, y compris dans le droit des sociétés, et y compris plus largement dans le droit privé. Par exemple, un livre excellent, comme celui de Mme Rockfeld, ne parle absolument pas du concept de capital et à aucun moment ne fait référence au droit comptable. Donc le droit, en fait, dans ma vision, le droit comptable a été sous-traité à une minorité de gens qui, en fait, se servent de ce droit totalement librement. Alors, pour terminer, mais ça, c'est peut-être ce qui va être expliqué.
Certainement.
À l'heure actuelle, une société mère est capable d'exiger de n'importe quelle de ses filiales et même de sociétés sur lesquelles elle a une simple influence de lui transmettre absolument toute sa comptabilité. Sinon, elle ne peut pas faire les comptes consolidés. Donc, on est dans un système complètement paranoïaque, mais tout à fait génial, à mon avis, du point de vue du capitalisme. Ils sont vraiment doués et extrêmement forts, avec l'appui des juristes. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Bon.
De certains juristes.
Donc, on est capable de dire, moi, société mère, j'ai la capacité d'imposer à toutes mes filiales, mes sociétés par équivalence, de faire remonter toute l'information, donc je sais tout. Et par ailleurs, le droit des sociétés prétend qu'il y a une autonomie complète de la filiale. Non, vous rendez compte ? Les juristes sont payés pour avoir bâti ce système, en gros, pour dire les choses comme elles sont, et qui est considéré comme normal. Et la logique même, là, personne ne fait, il y a très peu de personnes qui font apparaître cette logique tout à fait génial du capitalisme, hein, qui est capable de dire absolument l'inverse de ce qu'il fait à un autre, à un moment, et donc tout ça passe comme une lettre à la poste. Donc moi je milite pour que on se saisisse du droit comptable, on se saisisse notamment des comptes consolidés, pour mener une bataille obligeant à transformer ces comptes consolidés avec non plus simplement une seule ligne d'amortissement pour les machines, parce qu'on est dans un système, et j'ai terminé, où les machines sont protégées par le biais de cette charge d'amortissement. Si on n'amortit pas les machines, on peut être condamné par le droit des sociétés à des peines de prison. Donc on est dans un système complètement aberrant dans lequel il y a un droit dur qui pèse pour la protection des machines, alors que dans les comptes consolidés, en fait, il n'y a que cette ligne. Et donc, si on avait une bataille, alors ça, elle sera très dure à mener, parce que c'est le cœur du système. Hein, le cœur du système. Hein. Donc, si on a une bataille à mener, c'est celle de la comptabilité, parce que celle de la comptabilité reconnaît la prépondérance des sociétés mères sur la filiale. Sinon, c'est impossible, on n'a pas consolidé. Donc, il suffit, entre guillemets, de se sévir de ce droit pour avoir, et en plus, on aura des... si on réussit dans ce sens, on aura des auditeurs pour contrôler tous ces comptes. Parce que aller contrôler ce dont vous parlez à la fin, c'est pas évident. Par contre, le système actuel est fait pour que des auditeurs payés par les actionnaires, ce qui signifie qu'il faut les faire payer par d'autres, hein, puissent attester qu'on n'a pas effectivement protégé le capital humain et le capital environnemental.
Merci Jacques. J'aimerais bien qu'on coupe pas l'herbe sous le pied de Marie Astrid qui doit nous faire sa.
Voilà,
sa
parce que c'était effectivement tout à fait notre échange dialectique avec Marie Astrid et c'est la raison pour laquelle j'annonçais des sauts paradigmatiques encore plus intéressants de son exposé. Oui, pardon.
Non, j'ai une remarque et une question. La remarque, mais je pense qu'on va la reprendre après l'exposé de Marie Astrid. Je rappelle qu'il y a deux comptabilités. Il y a une comptabilité de gestion et une comptabilité générale. Ce n'est pas les mêmes et ce n'est pas fait par les mêmes. Et ça a une incidence tout à fait importante sur les restructurations. Je pense qu'on reprendra cette question-là après. Mais la question que j'ai pour le moment, c'est celle sur la loi vigilance. J'ai beaucoup de mal à voir l'application de la loi vigilance dans le champ spécifique des restructurations en France. Je vois bien le Rena Plaza, je vois bien comment les accords sociaux internationaux, les ACI, peuvent s'en servir, peuvent s'en emparer, mais on est sur des droits fondamentaux, on est sur le travail des enfants.
Tout à fait, on est sur les droits de l'homme.
Donc je ne vois pas là.
Je voudrais prolonger la question de Frédéric en effet en te demandant si par exemple sur le cas de Molex, est-ce qu'on aurait pu utiliser la loi sur le devoir de vigilance et est-ce que ça aurait la même puissance que le co-emploi dont tu nous as dit qu'il fallait, auquel tu nous as dit qu'il fallait renoncer quoi,
en fait. Oui, non, en réalité sur un cas comme Molex, on pourrait éventuellement agir ou penser sur le terrain de la responsabilité civile classique avec toute la difficulté les choses actuellement pendantes puisque j'annonçais qu'il y aura effectivement une réflexion de la Cour de cassation, des arrêts de la Cour de cassation qui devraient intervenir fin avril, début mai sur le sujet mais certainement pas la loi de vigilance qui porte sur des droits fondamentaux ou alors les droits fondamentaux qui seraient en cause, c'est pas le droit ce serait le droit à l'emploi ou ce serait les droits de la seconde génération de l'éclaration des droits de l'homme 1946, mais la loi de vigilance n'est pas spécialement conçue pour ça, vu que c'est une cartographie des risques qui n'envisage pas les droits, qui envisage plutôt les droits de l'homme, le droit à la vie finalement, le droit à la dignité, et pas le droit à l'emploi ou même le droit syndical.